soirée à vous à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Les gilets jaunes qui manifestent sont-ils complices du pire? C'est Emmanuel Macron qui le dit. Le président fustige la démocratie de l'émeute après 15 samedis de mobilisation. Alexandre Benalla est sorti de prison après une semaine de détention. On entendra dans un instant ses tout premiers mots. Les véhicules polluants interdits demain à Paris, mais aussi à Lille, où c'est une première. L'air est irrespirable. Le gouvernement trouve que l'indemnisation chômage des cadres est trop généreuse en France. Le plafond de cette indemnisation pourrait donc être abaissé. Decathlon renonce face à la polémique. Il ne vendra pas de hijab de sport dans ses magasins en France. Le réquisitoire au procès de Mehdi Nemmouche, jugé pour la tuerie au musée juif de Bruxelles. Une attaque terroriste, bestiale et préméditée, a dit aujourd'hui le procureur. Et puis le foot, PSG Dijon, quart de finale de la Coupe de France. On suit ça en direct avec vous, Julien Froment, et Paris qui mène à la mi-temps.
Exactement, 2-0 pour Paris face à Dijon, doublé de Di Maria à la 8e et à la 28e. Minute de jeu.
Julien Froment, que l'on retrouvera évidemment plus longuement dans le courant de ce journal. Vous voulez encore du beau temps? Eh bien, dernier jour demain pour en profiter. La pluie, en effet, revient jeudi. D'ici là, ciel bleu pour tout le monde, du matin au soir, et des températures qui vont encore un peu plus s'affoler. Il fera 1 degré au lever du jour à Mont-de-Marsan dans les Landes, mais 27 l'après-midi, 18 pour Brest, Caen, Lille, Paris, Strasbourg et Lyon. Et les prévisions météo complètes d'Hélène Amorna, c'est à la fin de ce journal. Et puis, je vous rappelle votre rendez-vous, comme tous les soirs, à 22h20, avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, qui a annoncé aujourd'hui un bénéfice net historique pour 2018, en hausse de 47%.
Europe 1.
Et c'est donc la phrase du jour. Elle est signée Emmanuel Macron, qui est revenu aujourd'hui sur les violences en marge des manifestations des Gilets jaunes. C'était à l'occasion d'une nouvelle étape du grand débat national. Le président recevait des élus du Grand Est. Il a répondu à une question du président de la région qui appelait l'État à faire preuve d'autorité après 15 samedis de manifestations. Écoutez la réponse du président.
C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec cette violence à certains moments et dans certains endroits, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part, justement, des forces de l'ordre. Et il faut maintenant dire que lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. C'est tout. Mais soyez partout où vous êtes aussi clair que cela. Et moi, je déplore qu'il n'y a pas toujours eu cette clarté. Je crois qu'aujourd'hui, la place doit être au débat, la place est à la réponse démocratique. Partout où elle est installée, elle sera ensuite dans les urnes pour les échéances à venir, pour celles et ceux qui veulent s'organiser. Mais on ne peut pas être dans une démocratie de l'émeute.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 de Virginie Riva. Il s'était dit préoccupé le mois dernier. Cette fois, le Conseil de l'Europe appelle la France à suspendre l'usage des lanceurs de balles de défense. Paris répond que l'utilisation de ces armes a été validée par le Conseil d'État. Après la phrase du jour, l'image de la soirée. Alexandre Benalla qui sort de la prison de la Santé où il était détenu depuis une semaine.
Heureux et soulagé, et je remercie mon avocate Jacqueline Lafont qui s'est battue jusqu'au bout. Voilà, merci.
Alexandre Benalla au micro de Claudia Bertram. Tout à l'heure, à sa sortie de la prison de la Santé, Vincent Kraz a également retrouvé la liberté ce soir. Tous les deux avaient été incarcérés pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact pendant l'enquête sur les violences du 1er mai. On vient donc d'entendre Alexandre Benalla qui remercie son avocate. Cette dernière, maître Jacqueline Lafont, se félicite. Elle estime que les juges ont cette fois su résister à la pression qui entoure ce dossier.
On a tellement dit qu'Alexandre Benalla ferait l'objet d'un traitement de faveur, que s'il faisait l'objet de mesures aussi peu sévères, c'est que manifestement il y avait la main du pouvoir qui était derrière ce traitement-là. Que d'une certaine façon, il y a peut-être inconsciemment des magistrats qui pensent que pour prouver qu'ils sont des magistrats indépendants, eh bien, il faut qu'ils cèdent à cette pression-là. Et donc là, il y a des juges d'instruction d'expérience qui ont considéré peut-être avec un peu plus de maturité, de sang-froid, de courage, qu'il fallait faire du droit. La cour d'appel a rendu la décision qui s'imposait. Il était absolument évident qu'Alexandre Benalla n'avait rien à faire en prison. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être rassuré de voir que des magistrats savent s'affranchir des pressions qui existent dans ce dossier.
Maître Jacqueline Lafont, l'avocate d'Alexandre Benalla, avec Pierre de Cossette.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h04. Merci d'écouter Europe 1. Après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage, vous savez que le gouvernement reprend la main. C'est lui qui va trancher. Édouard Philippe et Muriel Pénicaud ont tracé ce matin les grandes lignes de la future réforme qui sera effective dès l'été prochain avec plusieurs sujets sensibles sur la table. La question du bonus-malus sur les contrats courts qui a beaucoup divisé les partenaires sociaux. Et puis il y a aussi la question du niveau des indemnisations pour les salaires les plus élevés. Olivier Samin, sur cette question, le gouvernement juge que l'indemnisation chômage des cadres est trop généreuse en France.
Alors, pas de tous les cadres, mais des cadres les mieux payés. Avec ce chiffre, brandi ce matin par Édouard Philippe, 7 700 € brut. Ce chiffre, c'est le montant maximum de l'indemnisation mensuelle que peut toucher aujourd'hui un cadre qui perd son emploi. Dans les faits, ça concerne très peu de cadres, hein. Quelques centaines tout au plus des personnes qui, avant de perdre leur emploi, avaient un salaire brut au moins égal à 13 500 €. Au-delà de cette situation marginale, le Premier ministre considère que le système français est trop généreux comparé à ce qui se passe ailleurs en Europe. Le deuxième pays le plus généreux après la France, dit-il, c'est le Danemark, où l'allocation chômage maximum est de 2 700 € par mois. Alors, est-ce que le gouvernement décidera de baisser le plafond jusqu'à ce niveau, de passer de 7 700 à 2 700 ? Peut-être pas, ça pourrait être quelque part au milieu, on le saura dans les semaines qui viennent. Mais au ministère du Travail, on fait valoir que le niveau d'indemnisation ne doit pas être uniquement fonction du salaire que l'on touchait précédemment, il doit aussi tenir compte de la facilité plus ou moins grande à retrouver un travail. Or, les cadres de haut niveau n'ont généralement pas de difficulté à retrouver un emploi.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. L'État se donne un mois supplémentaire pour tenter de trouver un autre repreneur pour l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le ministre de l'économie demande à Altifort de se retirer de tout projet de reprise. Le groupe a confirmé la semaine dernière ne pas avoir les fonds nécessaires pour reprendre cette usine qui emploie 281 salariés. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Et si vous avez une vignette numéro 4 ou numéro 5 sur votre pare-brise, alors votre voiture devra rester au garage demain si vous habitez à Paris, mais aussi à Lille. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. La météo printanière de ces derniers jours fait la joie des vacanciers. Et pas seulement d'ailleurs, on a tous envie de sortir, de marcher, de s'asseoir en terrasse. Sauf que ça n'est pas vraiment recommandé en ce moment. En tout cas en Île-de-France et dans la région lilloise où l'air est particulièrement pollué. À tel point que demain, des mesures de restriction de circulation vont être mises en place avec l'interdiction de rouler pour les véhicules qui possèdent les fameuses vignettes critères numéro 4 et numéro 5. Alors dans la capitale, c'est une mesure qui a déjà été mise en place, mais pour les Lillois, c'est une première. Michel Lalande est le préfet du Nord.
C'est la première fois que les automobilistes vont devoir se servir de la vignette critère. Il y a plus de 770 000 véhicules dans le Nord qui bénéficient de cette vignette critère. Et demain pourront circuler les véhicules avec la vignette 0, 1, 2 et 3. Et pourront circuler également tous les véhicules qui pratiquent le covoiturage sans distinction de vignette. L'autre volet, c'est le volet limitation de vitesse sur les autoroutes, sur l'ensemble du réseau routier, avec des contrôles radars qui seront nombreux et sévères, pour amener les uns et les autres à s'engager dans une démarche citoyenne, à savoir limiter son empreinte dans la pollution du Nord et du Pas-de-Calais.
Le préfet du Nord, Michel Lalande, au micro du correspondant d'Europe 1 à Lille, Lionel Gougelot. Notez qu'en Île-de-France, le forfait anti-pollution sera mis en place demain sur l'ensemble du réseau de transport en commun francilien. 3,80 € pour toute la journée et le covoiturage sera également gratuit pour tous les franciliens en partenariat avec 8 plateformes spécialisées. Face à la polémique, Decathlon renonce à commercialiser en France un hijab de running, un voile islamique destiné à la course à pied. Cette annonce avait provoqué de vives réactions. Les Républicains, notamment par la voix de leur porte-parole, dénonçaient un marketing communautariste, signe de la soumission au mode de vie islamiste, tandis que le Rassemblement national y voit une nouvelle intrusion du communautarisme islamique dans l'espace public. Decathlon a donc décidé ce soir de faire marche arrière. On ne trouvera pas de hijab de running en France. Ce dont se réjouit François Patriat, le président du groupe La République En Marche au Sénat. Il était ce soir l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Que Decathlon recule et refuse de mettre sur le marché un vêtement qui suscitait autant de polémiques, je pense que ça interrogera tous ceux qui voudraient le faire dans l'avenir. C'est une décision de sagesse, vu le tollé que cette décision avait suscité à la fois dans les milieux politiques, de droite comme de gauche, mais aussi dans les milieux sociétaux, dans les milieux associatifs et tout simplement dans le pays. Je pense que Decathlon... une marque française qui veut aujourd'hui copier Nike, qui l'a déjà fait, c'est une décision qui va à l'encontre de l'esprit de la liberté que nous nous faisons. Je comprends bien qu'il peut y avoir à travers une mesure pour libérer le sport. Mais je crois que tous celles ou ceux qui veulent faire du sport aujourd'hui peuvent le faire dans des conditions qui n'obligent pas d'avoir une tenue qui marque autant. Le sport, c'est la liberté. Et je pense que le port du hijab running est contraire à l'esprit de liberté du sport.
François Patria, sénateur de la Côte d'Or, président du groupe La République En Marche au Sénat, il était avec Sonia Mabrouk ce soir sur Europe 1. En Belgique, le procès de Mehdi Nemmouche, ce Français jugé pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, dans lequel 4 personnes ont été tuées en 2014. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Vous avez suivi ces 2 jours de réquisitoire accablants.
Nous sommes convaincus au plus profond de notre être, a résumé l'un des 2 procureurs belges qui se sont relayés depuis hier. Pendant des heures, ils ont détaillé de façon très méthodique, très structurée, les 23 éléments à charge retenus contre Mehdi Nemmouche. Ça va de ses empreintes sur les armes aux vidéos de revendications dans lesquelles on entend sa voix, en passant par les témoignages. Il est radicalisé, archi-radicalisé même, lance le procureur. Il a commis un acte aveugle, un acte gratuit. Et il ne regarde pas ses victimes ni avant ni après les avoir abattues. Après ces 23 éléments, le parquet fédéral s'est lancé dans une attaque en 8 points de la thèse de la défense. Les procureurs ont descendu en flèche la théorie d'un complot du Mossad visant à exécuter 2 agents. Mais les 2 principaux avocats de Nemmouche n'ont rien entendu de tout ça. Ils n'étaient pas là aujourd'hui. Ils ont aussi été absents lors des plaidoiries des parties civiles. Jamais vu ça, souffle l'un de leurs confrères. Après-demain, ils auront toute la journée pour défendre Mehdi Nemmouche.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La justice britannique a ordonné aujourd'hui l'extradition d'Alexandre Djouri vers la France. Le businessman, personnage clé dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, il a l'intention de faire appel. La mise en examen de Michel Alliot-Marie, c'était la semaine dernière. On l'a appris qu'aujourd'hui, l'ancienne ministre, aujourd'hui eurodéputée, est soupçonnée de prise illégale d'intérêt à l'époque où elle était adjointe au maire de Saint-Jean-de-Luz. En cause, l'attribution de subventions indirectes à un festival présidé par son père. Ses avocats assurent qu'elle n'a pas participé au vote de ces subventions.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et les étudiants algériens se sont à leur tour mobilisés en masse aujourd'hui dans tout le pays contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État au pouvoir depuis 1999 et qui souffre des séquelles d'un AVC. C'est une contestation inédite depuis des années de par son ampleur et ses slogans visant directement le chef de l'État et son entourage, les Algériens qui devraient de nouveau descendre dans la rue vendredi. Donald Trump est à Hanoï au Vietnam, 2e rencontre entre le président américain et Kim Jong-un, 2e sommet USA-Corée du Nord. Il sera une nouvelle fois question de la dénucléarisation de la péninsule. Et puis le foot, on suit ce soir en direct sur Europe 1, le PSG qui dispute son quart de finale de Coupe de France contre Dijon. On vous retrouve en direct du Parc des Princes, Julien Froment, toujours 2-0 pour Paris.
Exactement, ça vient de reprendre à l'instant le début de la seconde période. Et là, le Paris Saint-Germain qui vient de se procurer une magnifique occasion en coup franc de l'Argentin Paredes, claqué par le gardien de but dijonnais. Donc 2-0 pour Paris grâce à un autre Argentin, c'est André Di Maria, auteur d'un doublé à la 8e minute de jeu, tout d'abord sur un magnifique ballon lobé sur Runarsson, le gardien de Dijon, et puis à la 28e, Di Maria qui a tenté dans un premier temps de donner le ballon à son coéquipier Choupo-Moting, finalement ballon contré qui lui revient dans les pieds, et André Di Maria donc qui s'en va inscrire un doublé ce soir. Paris qui pour le moment se dirige tout droit vers les demi-finales de la Coupe de France. On le rappelle, les Parisiens qui sont quadruples tenants du titre. Donc après 48 minutes de jeu, 2-0 pour le PSG face à Dijon.
Et on vous retrouvera Julien Froment un petit peu avant 22h30 pour faire un nouveau point en direct du Parc des Princes. Et puis notez que les Girondins de Bordeaux et Ricardo, c'est déjà terminé. Le club se sépare de son entraîneur brésilien pour cause de mauvais résultats. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous et les dames Morna. Une météo de rêve, on aimerait bien que ça dure jusqu'au week-end.
Tous les rêves, même les plus beaux, ont une fin, Isabelle. En ce qui nous concerne, ce sera pour jeudi sur l'ouest, puis partout, sauf près de la Méditerranée ce week-end, avec de la grisaille, de la pluie, du vent et la neige qui revient la semaine prochaine. D'ici là, votre mercredi se déroulera sous un ciel bleu avec des températures fraîches le matin et une amplitude thermique remarquable l'après-midi, jusqu'à 27 degrés demain pour Mont-de-Marsan, qui aura quand même démarré sa journée avec 1 degré. 23 à 26 dans le sud-ouest, 16 à 21 sur le reste du pays. On aura 18 pour Brest, Lille, Paris, Strasbourg et Lyon. Moins chaud, c'est vrai, sur les bords de Manche avec 13 à 16 degrés. Alors cette météo de rêve pour les uns est un cauchemar pour ceux qui souffrent d'allergies au pollen. Leur concentration explose dans le sud, en Bretagne, en Vendée et en Bourgogne. Les seuils devraient baisser avec l'arrivée des pluies et la baisse des températures. Pareil d'ailleurs pour la pollution aux particules fines qui vont s'évaporer en même temps que le départ de l'anticyclone qui fait office de couvercle.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, qui a de bonnes nouvelles. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16, on s'intéresse à la bourse avec vous, évidemment, Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui termine stable ce soir. Hein.
Beaucoup d'hésitations à Wall Street où les indicateurs sont quasiment stables. Dow Jones finalement en repli de 0,13%, une toute petite baisse, 26 058 points. Le Nasdaq ne bouge pas, 7 550 points. On a tergiversé en fin de séance à Wall Street puisque les indicateurs étaient encore dans le vert il y a quelques minutes. Les derniers commentaires de la Réserve fédérale américaine confirment la volonté de la Banque centrale de se montrer patiente sans toucher à ses taux d'intérêt alors que l'économie américaine ralentit. Ça donne donc des marchés très hésitants ce soir. Les valeurs de technologie ne bougent pas ou quasiment pas. Apple est stable à $174. Intel grappille 0,2%, $53.23. Cisco plus 0,7% à $51.18. Et Amazon plus 0,2%. Même chose sur le pétrole qui avait baissé nettement après les déclarations de Donald Trump hier. Moins 3% hier sur le pétrole. Mais aujourd'hui, ça ne bouge pas autour des $55 le baril WTI. Exxon reprend quand même 0,2%. Le géant pétrolier monte à $78.66. Sur les devises, l'euro est proche des 1,14, il remonte à 1,1390 face au billet vert.
Et la bourse de Paris, elle, a poursuivi son mouvement de hausse.
Encore, oui, alors que la matinée était plutôt dans le rouge, ça s'est retourné dans l'après-midi pour terminer en progression de 0,13% sur le CAC 40, 5 238 points. Et une nouvelle fois, les valeurs en vue depuis 8 jours ont poursuivi sur leur lancée, à commencer par Air France KLM, encore plus 5,4%. 12,73 €, ce qui porte quand même à 30% le rebond du titre Air France KLM depuis le début de l'année. Il faut dire ce soir qu'il y a une sorte de coup de théâtre quand même. L'État néerlandais tape du poing sur la table et annonce avoir acquis 12,6% du capital de la compagnie aérienne. L'objectif affiché des Néerlandais est de monter à la hauteur de l'État français, soit 14% du capital d'Air France KLM, pour parler d'égal à égal. Il y a vraiment de la tension et ça remue sévèrement dans les branches après les derniers épisodes entre l'État néerlandais et l'État français, et ce bras de fer donc qui est en train de monter en puissance, si l'on peut dire. Sur les autres places financières, on a progressé avec le DAX en hausse de 0,3% à Francfort, Bruxelles plus 0,5%, Madrid plus 0,2%, petite hausse aussi à Milan plus 0,1%. Il y a quand même une exception. Et on connaît évidemment l'exception du jour, tout le monde la connaît, c'est Londres qui cède 0,4% avec le Brexit qui n'en finit pas, cette hypothèse peut-être de nouveau référendum en Angleterre est très mal vécue par la Bourse de Londres qui cède encore du terrain ce soir, 0,4% de moins. On rappelle le CAC 40 en hausse une nouvelle fois, plus 0,13% à Paris, 5 239 points.
Eh bien merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com. Et à 22h20, c'est l'heure de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le président du directoire de PSA.
Bonsoir Carlos Tavares.
Bonjour.
Vous êtes le patron de PSA, vous êtes un homme heureux. Résultat record du jamais vu dans l'histoire de PSA. Comment ça s'explique ?
Ça s'explique parce que nous avons des collaborateurs qui sont des personnes exceptionnelles et des gens qui travaillent en équipe, qui comprennent l'intérêt de l'entreprise et qui savent se transformer eux-mêmes pour répondre aux attentes de nos clients. Donc effectivement, 2018 a été une année historique pour le groupe PSA, avec une augmentation de notre chiffre d'affaires de 19%, notre marge opérationnelle de 43%, de résultat net de 40%. Donc effectivement, une très belle année, avec une position financière nette de 9 milliards d'euros, ce qui prouve que cette entreprise qui était au bord de la faillite il y a 5 ans, finalement, a su se reconstruire. Et évidemment, ceci a pu être fait grâce à nos collaborateurs qui sont exceptionnels.
Et du coup, vous allez les récompenser. Une prime jusqu'à 3 800 € pour ceux qui sont jusqu'à 2 fois le SMIC, un petit peu moins, mais ça va jusqu'à 3 fois le SMIC. Cette prime exceptionnelle qui, elle aussi, est tout simplement record.
Effectivement, 3 810 € pour nos collaborateurs qui gagnent moins de 2 fois le SMIC. Ça se compare à 2 660 € l'année dernière. Et ça représente une augmentation de cette prime de performance et prime d'intéressement de 43%. Qui se trouve être exactement le taux d'amélioration de notre marge opérationnelle. Donc vous voyez que nous faisons attention à ce que le fruit de cette richesse créée soit aussi redistribué à nos collaborateurs. Et sur une période de 5 ans, Au niveau mondial, nous avons multiplié par 4,5 les montants qui ont été versés à nos collaborateurs en primes de performance et primes d'intéressement. Et nous avons un montant de ces primes qui est comparable aux dividendes qui ont été payés à nos actionnaires. Donc une situation très équilibrée qui me paraît très saine pour le groupe PSA.
On va entrer un petit peu dans le détail de ce qui se passe du côté du groupe PSA. Il y a aussi un point qui est quand même très intéressant. Vous avez racheté Opel il y a 18 mois. Opel n'avait jamais gagné d'argent depuis 20 ans. Donc on n'en gagne pas beaucoup cette année, mais malgré tout, ça y est, vous avez l'impression que le défi de reconstruire Opel est en train enfin de fonctionner?
C'est effectivement le début d'une belle histoire, puisque Opel a en 2018 gagné plus de 800 millions d'euros avec 4,7% de marge opérationnelle. Moi, je suis sincèrement très heureux pour nos collaborateurs d'Opel qui, effectivement, ont vécu pendant 20 ans dans une entreprise qui faisait des pertes. Et on imagine ce que ça peut représenter sur le plan du stress et sur le plan psychique pour l'ensemble des équipes. Elles ont fait un travail remarquable. Il faut dire que le leadership du patron d'Opel, M. Le Scheller, a été exceptionnel. Il a d'ailleurs été critiqué dans son propre pays pour les décisions impopulaires qu'il a éventuellement été obligé de prendre. Je trouve ça très injuste. Je pense qu'il faut les soutenir, il faut leur dire qu'ils sont en train de faire ce qui est juste pour l'entreprise, ce qui va donner à l'entreprise une perspective de moyen et long terme. Et je suis très très heureux qu'ils soient enfin sortis de cette période noire.
PSA est un groupe très international, mais vous êtes revenu à des niveaux quasi records de ventes en Europe. Vous êtes recentré sur l'Europe, 80% des ventes réalisées en Europe, je crois contre 67% un an plus tôt. C'est pas dangereux quand on sait que c'est ce qui avait coulé le groupe PSA à l'époque, d'être auto-centré sur l'Europe?
D'abord, je voudrais dire à nos concitoyens que je suis très fier d'être européen. Je pense que l'Europe a un potentiel incroyable. D'ailleurs, nous gagnons beaucoup d'argent en Europe. Et ceci constitue pour nous une base très solide à partir de laquelle nous pouvons nous déployer à l'international. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé aujourd'hui que la marque Peugeot va revenir en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada.
Sous combien de temps ?
Dans les 3 prochaines années, ça va se produire. C'est la raison pour laquelle nous allons aussi revenir en Inde avec la marque Citroën. Et c'est la raison pour laquelle nous allons revenir en Russie avec la marque Opel. Donc, vous voyez, sur la base...
Donc, il fallait resolidifier l'Europe et maintenant, on essaie
de... Et s'en servir, évidemment, comme base solide pour nous redéployer à l'international. C'est ce que nous faisons avec ces 3 nouvelles que nous annonçons aujourd'hui.
Parce que certes, c'est historique ces résultats, mais quand on regarde du côté de la Chine, c'est toujours bien compliqué et ça va continuer encore à être dur dans les années à venir. Comment on fait pour redresser la barre? Comment on trouve enfin les bonnes voitures qui vont se revendre en Chine?
En Chine, ce n'est pas un problème de voiture, c'est un problème de management, c'est un problème de rigueur dans la conduite des opérations. C'est vrai que nous sommes en difficulté, que nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule pour rebondir en Chine. C'est vrai aussi que, comme nous avons une activité en Chine qui est finalement relativement modeste, 200 000 voitures sur 4 millions, nous sommes parmi ceux qui seront les moins impactés par la décroissance du marché chinois qui s'annonce maintenant.
Pourtant, ça a été un moment le plus gros marché de PSA.
À un moment donné, oui. Et puis, vous voyez comme les choses changent. Il y a 5 ans, nous serions ici en train de nous dire qu'on ne peut pas gagner d'argent en Europe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire que nous gagnons très bien notre vie en Europe. Et donc, ça nous rend très fiers du travail qui a été fait par nos équipes. Et il faut reconnaître avec humilité que nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule en Chine, mais nous allons finir par la trouver parce que nous travaillons très dur avec nos partenaires et nos propres équipes. Nous avons d'ailleurs commencé à nous déployer dans le domaine des pièces et services, aussi bien dans le domaine des voitures d'occasion, parce que nous voulons apprendre le marché chinois par des activités qui sont pilotées directement par le groupe PSA.
Vous avez parlé d'une année de chaos pour cette année avec le Brexit, avec toutes les incertitudes. C'est-à-dire que vous êtes un homme inquiet pour cette année ?
Je suis un homme excité par les défis qui se présentent devant nous. Je pense qu'il faut constater avec honnêteté que l'année 2018 a été une année de chaos, que l'année 2019 risque d'en être une autre. Je suis un citoyen européen convaincu. Je veux que cette région soit capable de représenter un pôle de performance qui puisse concourir avec l'Asie et avec l'Amérique du Nord. Je déplore que nos responsables européens n'aient pas encore compris cela, mais c'est ça l'essentiel de notre vision pour l'Europe.
Mais pour vous, c'est le plus grand risque, le Brexit, devant vous?
Pour nous, le plus grand risque, c'est que l'Europe ne se constitue pas comme une entité compétitive face à l'Asie et face à l'Amérique du Nord. Je pense qu'il est plus important pour les citoyens européens de construire une Europe compétitive face à ces deux énormes pôles de concurrence que représentent l'Asie et l'Amérique du Nord, que d'assurer la plus forte concurrence pour le consommateur à l'intérieur de l'Europe. Et c'est un enjeu bien plus important, bien plus stratégique pour le moyen et long terme. En tout cas, c'est l'enjeu qui intéresse nos enfants et nos petits-enfants.
Concernant les voitures que vous présentez, vous avez dévoilé ce week-end vos 208 électriques. Vous, le pari, c'est qu'il faut que toutes les motorisations disponibles sur quasiment tous les modèles. Le tout électrique, c'est pas obligatoirement l'avenir ?
Notre vision, c'est que les véhicules électriques présentent un silence de fonctionnement et des capacités d'accélération qui sont supérieures à celles du véhicule thermique. Mais notre vision, qui est encore plus forte, c'est que celui qui décide, c'est le consommateur. Donc nous, on apporte sur le marché des voitures qui sont agréables à conduire, divertissantes, et le consommateur décidera, comme sur la Peugeot 208 ou la DS3 Crossback E-Tense, quelle est la motorisation qu'il veut choisir. Nous, on lui apporte le choix, à lui de s'informer, à lui de décider ce qui est le mieux adapté à ses besoins.
Enfin, toute dernière question, qu'est-ce que vous pensez du cas Carlos Ghosn? Vous l'avez très bien connu, vous avez été son numéro 2. Vos relations se sont un poil tendues à la fin, mais votre sentiment?
Mon sentiment, c'est que je ne vais pas me prononcer sur ce point, car nous sommes dans un monde occidental où, quel que soit mon commentaire, il est à peu près certain qu'il sera déformé et sorti de son contexte. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Pour une question éthique très simple, c'est que je veux protéger PSA. Et donc, en tant que patron de PSA, je ne peux pas répondre à ces questions. Mais je vous promets de répondre à la question quand je prendrai ma retraite un jour.
Bah, c'est pas pour tout de suite. Merci en tout cas, Carlos Tavares.
Et merci à vous, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Ascoval, Ford, Alcatel, impuissance d'État, titre Libération, qui estime que la multiplication des plans sociaux et des fermetures d'usines acte l'incapacité de l'exécutif à peser sur l'avenir de l'industrie française. Dans le journal Les Échos aussi, on revient sur ces dossiers industriels difficiles qui s'empilent sur le bureau de Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie, interpellé sur le sort de l'acierie Ascoval, défend son bilan en matière de préservation des emplois industriels. Et se donne un mois pour trouver un nouveau repreneur. Grâce à notre politique, nous avons réussi à stabiliser l'emploi industriel en France depuis 2 ans, répond-il à ses détracteurs. Européenne, à gauche, c'est tout sauf le PS, titre le journal L'Opinion. Après Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Communiste, Benoît Hamon a dévoilé aujourd'hui les premiers noms de la liste de sa formation en vue des élections. Une annonce qui semble enterrer la démarche d'union de la gauche entamée il y a 4 mois par le mouvement Place Publique et à laquelle la direction du Parti Socialiste s'est ralliée jusqu'ici sans succès. Dans le journal Alsace, Emmanuel Delahaye intitule son édito « Après nous, la fournaise ». C'est un fait désormais connu de tous, écrit-il. Et pas seulement parce que cette fin février constitue le plus beau printemps qu'on ait connu depuis novembre dernier. La Terre et son climat vont mal, très mal. Les meilleurs experts le répètent à longueur de rapports scientifiques. Il reste entre 10 et 15 ans pour inverser la tendance. Après nous, le déluge ou la fournaise, en tout cas, la grande bascule climatique. Hormis Donald Trump, sans doute, chacun sait déjà tout cela, au moins confusément, à force de l'entendre, de le lire ou de le relire. Assiste-t-on pour autant à des scènes de panique collective? Non. En psychologie sociale, cela porte un nom, discordance cognitive. Notre génération peut pourtant encore agir efficacement. Elle est surtout la dernière à le pouvoir. Voilà pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et on va faire un nouveau détour par le Parc des Princes, rejoindre Julien Froment, le PSG qui affronte Dijon pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et c'est facile pour l'instant pour Paris.
Oui, exactement. 63 minutes de jeu, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à Dijon. Les deux buts sont signés de l'Argentin Andrel Di Maria à la 8e et à la 28e minute de jeu. Et Paris, là, qui est un petit peu dans ses petits chaussons. Et qui se laisse un peu aller parce que Paris a de l'avance. Paris a fait le plus dur du travail ce soir au Parc des Princes, alors que là il y a peut-être une occasion finalement de bien capter le ballon, ce ballon de Marco Verratti bien capté par le gardien dijonnais. Et ce sont donc les Dijonnais qui se sont également procurés des occasions, notamment Tavares en première période qui a touché le poteau et là qui a sollicité il y a quelques minutes Gianluigi Buffon d'une belle frappe, mais le gardien italien a bien détourné la tentative du joueur du DFCO. Donc voilà, Paris à sa main, qui gère pour le moment tranquillement son avantage de 2 buts face à Dijon et qui se dirige tout droit vers les demi-finales de la Coupe de France. On le rappelle, Paris qui peut affronter Rennes, Orléans, Lyon, Caen, l'AS Vitré ou le FC Nantes. Donc 2-0 pour Paris face à Dijon après 64 minutes de jeu.
Merci beaucoup Julien Froment au Parc des Princes et je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle, et à vous écouter, on n'ose pas trop se réjouir de ce temps printanier en fin février.
C'est vrai. Alors il faudra profiter de la journée de demain parce qu'après il paraît que la pluie revient.
Bon, c'est tant mieux, on va retrouver les normales saisonnières comme on dit.
À tout à l'heure Sophie.
À tout à l'heure.